Donc, je vais passer la parole à Sylvia Proslosinotte, qui, après des questions d'économie, va nous parler des questions juridiques. Donc, Sylvia Proslosinotte est docteure en droit. Elle est maître de conférence en droit public à l'université de Paris 10 Nanterre. Et elle est rédactrice du site d'actualité juridique concernant le droit des libertés fondamentales. Et donc, elle va nous parler des questions juridiques liées à l'identification et à la surveillance. Et pareil, peut-être qu'après, je passerai directement la parole à Thierry Rousselin. Et en fait, comme ensuite, on a une table ronde sur l'identification et la surveillance et les libertés individuelles, on prendra des questions, l'ensemble des questions à la fin.
Oui, alors, en fait, moi, on me demande d'intervenir sur la protection des droits et libertés. Alors, je vais essayer de simplifier un ensemble complexe et très technique pour voir ce qu'il implique pour nos libertés et tenter de déterminer si et comment nous pouvons, vous et moi, nous protéger. Alors, la situation générale vous a déjà été exposée. Nous dirons en simplifiant, alors c'est un schéma que je fais pour mes étudiants. C'est un schéma destiné aux étudiants, je n'ai pas voulu le modifier. Il passe pas. Bon, c'est pas grave. Bref, ce que je veux dire simplement, c'est que finalement nous sommes dans ce que j'appelle le grand cirque sécuritaire. Et pour résumer la situation, obsession sécuritaire des États, c'est ce qui a déjà été évoqué, largement soutenu par les industries, oui, voilà, c'est pour les étudiants, mais bon, ça me semble assez pédagogique. Multiplication des discours, y compris médiatiques, autour de la prévention d'un risque permanent, futur, incertain et multiforme. Mais également marché commercial très rentable, visant à créer une véritable addiction sécuritaire chez les individus. Alors, je vais citer une enquête de la CNIL qui a par exemple déterminé que la plupart des personnes sont prêtes sans hésitation à géolocaliser et tracer leurs enfants par tout moyen technologique performant. Alors, notons quand même que le bracelet électronique a déjà été testé sur les bébés. Pour l'instant, ça passe pas très bien. Attendons la suite. Eh bien, face à cette situation où les individus sont parfois à l'origine de leur propre aliénation sécuritaire, quelle protection le droit peut-il apporter pour défendre les libertés? Je voudrais d'abord apporter une précision juridique, généralement méconnue. De nombreux textes, par exemple la loi du 21 janvier 1995 sur la vidéosurveillance, la loi sur la sécurité intérieure de mars 2003, affirment, comme on l'entend d'ailleurs marteler dans beaucoup de discours politiques, que la sécurité est un droit fondamental. Alors, ce faisant, on introduit une véritable confusion entre sécurité et droit à la sûreté. Or, le droit à la sûreté symbolise la protection de l'individu contre l'arbitraire. Et jadis, il avait été créé pour lutter contre les arrestations et les détentions laissées au bon vouloir des rois, donc contre l'arbitraire de l'époque. Je reviendrai sur ce droit à la sûreté qui me semble essentiel aujourd'hui et sur son développement qui me semble très utile. Alors, il est clair que dans tous les textes internationaux qui énoncent et garantissent les droits de l'homme, la sécurité est toujours entendue comme une fonction de l'État l'autorisant à restreindre les droits et libertés, mais de manière limitée dans le temps et dans l'espace, pour des motifs précis et sous réserve du contrôle d'un juge. D'ailleurs, les nombreuses théories sur la sécurité n'ont jamais fait mystère de cette réduction des libertés inhérentes à l'application des politiques de sécurité. Si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque je suis juriste, je vais la citer, pour rappeler ce principe essentiel, la Cour européenne reprend systématiquement des termes qu'elle a employés dès 1978 dans un arrêt classe contre Allemagne, dans les affaires qui concernent tout type de surveillance au nom de la sécurité. Alors je la cite, « Les États ne disposent pas d'une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance les personnes soumises à leur juridiction. » Et la Cour souligne fermement qu'elle est consciente du danger inhérent à pareil texte de saper, voire de détruire la démocratie au motif de la défendre. Elle affirme en conséquence que les États ne sauraient prendre au nom de la lutte contre l'espionnage ou contre le terrorisme, donc qui a été évoqué, n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée. Elle exige clairement, dans ces cas, que quel que soit le système de surveillance retenu, il doit exister des garanties adéquates et suffisantes contre les abus, et les abus, elle les détermine comme étant l'arbitraire, élément central. Dès qu'il y a soupçon d'arbitraire, elle condamne l'État pour violation, alors en l'espèce, de l'article 8 de la Convention européenne, c'est-à-dire le droit à la vie privée des personnes, conçu de manière extrêmement large par la Cour. Donc, vu cette approche, et notamment cette question de lutte contre l'arbitraire, je reviendrai sur le droit à la sûreté qui représente la lutte contre l'arbitraire et sur son application qui me semble essentielle aujourd'hui face aux technologies de sécurité. Mais donc je rappelle ce qui vient d'être dit, juridiquement, dans un État démocratique, la notion de sécurité ne se conçoit que par rapport à l'obligation de respecter les droits fondamentaux. Alors c'est notre point de départ et ça sera bien sûr aussi ma conclusion. Je vais d'abord tenter une présentation rapide du paysage juridique autour de la protection des droits, sachant qu'au milieu donc de ce grand spectacle sécuritaire, il va d'abord s'agir de resituer la personne, vous, moi, et de comprendre comment elle va pouvoir défendre ses libertés. Voilà. Alors, si je prends mon cas personnel, je suis, comme chacun d'entre vous, perplexe. J'ai mon portable qui permet de me géolocaliser sans difficulté, on l'a démontré, à Beaubourg, et même d'écouter, vous le savez, mes conversations, même quand il est éteint. J'ai une carte bancaire, j'utilise Internet. Sur mon lieu de travail à l'université, je suis vidéosurveillée. Peu le sachant d'ailleurs, car personne ne voit le panneau qui l'indique. D'ailleurs, je pense que je suis vidéosurveillée à Beaubourg aussi. Depuis fin décembre, j'ai accepté de guerre lasse un pass Navigo découverte. Un pass Navigo, pardon, individualisé, qui me trace durant 48 heures, vous l'avez dit, n'ayant nulle part réussi à trouver le pass Navigo découverte qui a fait l'objet de la colère récente et très justifiée du président de la CNIL. Je figure dans un nombre de fichiers publics et privés dont j'ignore le chiffre exact, mais qui est certainement important. Et enfin, j'ai un passeport électronique aux normes qui m'a permis de passer, il y a un mois, la frontière américaine. Grâce à l'accord de l'Union européenne avec les États-Unis, toutes mes données passagers, ce qu'on appelle les données PNR, y compris mes préférences alimentaires, ont été transmises par ma compagnie aérienne au fichier des agences de sécurité américaines, FBI, CIA, etc., etc., accompagnées du scan de mon iris pris à la frontière et de mes empreintes digitales. J'ignore ce que mes données vont devenir et leur durée de conservation, mais je sais que les fichiers américains, y compris ceux du terrorisme, contiennent des milliers de personnes fichées par erreur, la France n'étant donc pas le seul pays qui enferme de malheureux innocents dans le dédale de ces fichiers de sécurité. Rappelez-vous, 25% d'erreurs, a dit la CNIL, dans le STIC et Judex. Bref, comme vous tous, je suis au centre des technologies de sécurité. Alors, face à cette situation sécuritaire, dominée aujourd'hui par l'obsession biométrique, comment protéger nos libertés ? Liberté d'aller et venir, droit à la vie privée, et surtout, élément qu'on oublie souvent, liberté individuelle que l'on doit protéger contre l'arbitraire. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Pour simplifier, je dirais que si les grands principes sont énoncés dans les conventions des droits de l'homme, encore faut-il pouvoir les appliquer. Alors, du côté français, si les textes qui encadrent les technologies de sécurité ne manquent pas, leur accès est souvent difficile, manque de clarté, morcellement, puisqu'ils s'appliquent par secteur. Alors que l'une des caractéristiques des technologies de sécurité, vous l'avez déjà démontré, c'est finalement leur convergence, notamment à travers la création de bases de données, aujourd'hui quand même essentiellement biométriques. Alors en France, nous avons, j'ai cité quelques lois, nous avons loi sur la vidéosurveillance, loi informatique et liberté, loi sur l'interception des communications, le code pénal, avec une série d'articles qui créent des infractions liées à ces secteurs. Par exemple, en matière de fichiers, on peut théoriquement porter plainte, puisque pas moins de 15 infractions sont prévues. Mais les sanctions sont si excessives, d'ailleurs ça c'est une spécificité encore incompréhensible, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende pour le vol, c'est beaucoup moins. Donc en réalité, ces procédures ne sont pas appliquées. Mes étudiants ont fait une enquête et ont pu le constater. Alors profusion de textes, incertitude quant à la réalité de la protection qu'ils mettent en place, d'autant que les lois sont complétées par des décrets et arrêtés innombrables qui peuvent prévoir au cas par cas des procédures spécifiques. Par exemple, puisqu'on évoquait le FNAEG, le décret du 25 mai 2004 prévoit une procédure très complexe pour tenter, je dis bien tenter, d'obtenir la suppression de son nom dans ce FNAEG, alors même que l'on a été mis hors de cause dans le cadre d'une procédure pénale. Je vous rappelle que lorsqu'on est soupçonné, mis en cause, c'est 25 ans la durée de conservation dans le FNAEG. Alors en fait, ce n'est pas le nombre de textes de protection qui compte, mais c'est leur effectivité. Effectivité, eh bien, c'est la possibilité d'exercer les droits qui y sont prévus et de voir leur respect garanti par un juge ou un organe indépendant. Alors précisément, dans le domaine des technologies de sécurité, on a d'une certaine manière privilégié le contrôle par des AAI, autorités administratives indépendantes, notamment les deux essentiellement, Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et surtout la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors tout d'abord, aujourd'hui en réalité, il s'agit essentiellement de la CNIL. La CNCIS, pour simplifier, a progressivement perdu son importance. Et d'ailleurs, la CNIL indique que si un dispositif d'écoute ou d'enregistrement téléphonique, par exemple sur un lieu de travail, repose sur des moyens numériques, il ne peut être installé que s'il a préalablement fait l'objet d'une déclaration auprès d'elle. De même, malgré la loi de 1995 sur la vidéosurveillance, qui prévoit un système d'autorisation préfectorale, la CNIL estime être l'autorité compétente en matière de vidéosurveillance numérique, position qui vient d'être confirmée en fait dans un rapport récent du Sénat en date du 10 décembre 2008. On voit donc que progressivement, la CNIL revendique un rôle central pour l'ensemble du secteur des technologies de sécurité. Alors pourquoi pas ? La grande question, c'est que si elle ne manque pas de représentants de différentes honorables institutions, puisque le collège de la CNIL est composé de 17 membres éminents, elle manque par contre cruellement de moyens financiers et de personnel, notamment technique, pour mener à bien son rôle, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même. Alors, si son rôle en matière de fichiers publics, notamment de biométrie, a été totalement réduit depuis une modification de 2004, puisqu'elle n'a plus qu'un avis à donner qui peut ne pas être respecté. Elle a par contre acquis un pouvoir de contrôle l'autorisant à effectuer des enquêtes et à sanctionner les contrevenants. Encore faut-il, c'est toujours cette question, qu'elle dispose de véritables moyens en personnel. Alors de plus, la CNIL est aussi l'autorité chargée d'examiner les plaintes des personnes, vous et moi, auxquelles, par exemple, on a refusé un droit d'accès à un fichier, ou refuser une rectification, une suppression de données. Or, il apparaît que les procédures devant la CNIL sont très longues et, je pense, inadaptées au contexte actuel des technologies de sécurité. Alors, je vais encore prendre mon exemple personnel, puisque, ayant contacté un organisme sur Internet en lui demandant la suppression d'une donnée personnelle inexacte et inappropriée, je me suis vue refuser cette suppression par l'organisme, c'est assez fréquent, qui n'a d'ailleurs pas hésité à mettre son complexe au bas de sa réponse, vous savez, sous forme d'écriture automatique, tous les textes dont je demandais l'application. Alors, je crois qu'il y a l'illustration d'un travers qui est bien français. On inscrit, on proclame des beaux principes, mais on oublie de les appliquer. J'ai donc voulu saisir la CNIL à l'heure d'Internet et de la revendication officielle de ce qu'on appelle l'e-administration, l'administration électronique. Eh bien, pas de procédure de saisine par courrier électronique. Il faut envoyer un courrier postal, plus, si possible, copie de sa pièce d'identité, et attendre. Même problème pour une personne qui veut exercer son droit d'accès indirect à un fichier de sécurité. Après son courrier, seul un magistrat de la CNIL peut se déplacer pour vérifier l'inscription et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires. Attente donc extrêmement longue, puisqu'aucun délai n'est prévu pour la réponse de la CNIL. Eh bien, je voudrais comparer ces procédures, je pense un peu inadapté, mais sans doute manque de moyens, avec la possibilité qu'a l'administration de se connecter instantanément aux fichiers de police et gendarmerie, STIC et JUDEX, réunis pour le meilleur et le pire sous le nom d'Ariane. L'administration a un droit de connexion immédiat pour ses enquêtes administratives, notamment pour vérifier si une personne qui veut entrer dans l'administration n'y est pas fichée. Alors, je vais prendre au hasard un exemple. Article 1, grand 1, premièrement, petit e, du décret du 6 septembre 2005. Eh bien, cet article prévoit que l'administration va aller vérifier sur tous ses fichiers de police les demandes d'emploi de futurs agents de la CNIL. Donc, pour conclure cette partie, il peut sembler en effet cohérent, je pense, qu'une seule autorité de régulation existe pour les technologies de sécurité. La CNIL souhaite être cette autorité, mais je crois qu'il est clair que ce n'est possible que si une réelle modification de ses moyens financiers et de ses procédures est rapidement mise en place. Alors, complétant le contrôle d'une autorité de régulation, il y a le juge, normalement désigné pour faire respecter les lois et même les libertés, mais quel juge ? Il est clair qu'au vu de l'accélération permanente des technologies de sécurité, le temps de réflexion nécessaire à la bonne justice peut paraître inadapté, ce qui explique en partie pourquoi la question du contrôle a été envisagée sous l'angle de la régulation. Si le juge intervient, globalement, c'est toujours en fin de processus. Bon, sauf saisine de référé, mais c'est dans des cas particuliers. Au point que son rôle est souvent peu connu. De manière plus générale, puisqu'on est dans les droits fondamentaux, eh bien, il y a le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est le garant national des droits fondamentaux. Il n'intervenait jusqu'ici qu'avant la promulgation des lois. Alors, ça va changer, heureusement. Lorsqu'il a été saisi de lois portant sur la sécurité, eh bien, il a toujours repris la même doctrine. Donc, je cite sa décision sur la loi sur la sécurité intérieure du 13 mars 2003. L'ensemble des garanties prévues par la loi qui lui est soumise sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Quant à définir ce qu'est l'ordre public, je me permets de citer, au sens du Conseil constitutionnel bien sûr, je me permets de citer un passage du rapport présenté en 2003 devant la Commission de Venise dans le cadre des rencontres des cours constitutionnelles européennes qui se tient chaque année. Alors voilà ce qu'on nous dit. Le Conseil constitutionnel n'a jamais défini ce qu'il entendait par ordre public. Mais à la lecture de ses décisions, il est facile de comprendre ce à quoi il fait référence. Il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition précise. Alors je pense que vous avez tous compris. Je crois que dans tous les cas, ou jusqu'ici du moins, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas, pour le moment, d'une audace excessive en matière de protection des libertés face aux technologies de sécurité. Alors, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur la Cour européenne des droits de l'homme. Je l'ai citée en préliminaire, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est d'elle que viennent les signes les plus prometteurs pour la protection de nos libertés dans le domaine qui nous intéresse. Alors évidemment, l'inconvénient, il est de taille, c'est qu'il faut d'abord avoir épuisé toutes les voies de recours internes, le terme « épuisé » étant assez adapté, puisqu'il faut attendre des années le résultat de la procédure effectuée devant tous les juges nationaux avant de saisir la Cour. Mais la Cour européenne rend des décisions qui ont valeur de référence pour tous les pays européens, même si les États mettent parfois du temps à modifier leurs textes et leurs pratiques malgré une condamnation. Lorsqu'elle est saisie d'une procédure liée à la sécurité, par exemple dans le cadre des fichiers, de la vidéosurveillance, la Cour, je l'ai déjà indiqué, se fonde toujours sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce droit à la vie privée, auquel elle donne, comme je vous l'ai dit, un sens extrêmement étendu. Pour illustrer sa position, je voudrais citer deux décisions qui me semblent intéressantes. La première nous rappellera le fichier Edwige, désormais mort-né. Je crois que nous ne soyons pas trop tristes. Il y en a d'autres qui naissent, pour lesquels les parents choisissent souvent de jolis prénoms féminins, Christina, Ariane, etc. Donc, la Cour, dans un arrêt Zegerstedt-Wiberg contre Suède du 6 juin 2006, avait été saisie du refus de l'État suédois de supprimer d'un fichier de surveillance, genre donc ex-fichier RG, la mention d'activité politique de personnes appartenant à des partis politiques d'extrême gauche. Le fichage et le refus de retirer ces données étaient justifiés par le fait que ces partis prôneraient la destruction de l'État démocratique. Or, constatant que, depuis la création de ces partis, aucune circonstance n'a pu démontrer que les dispositions litigieuses de leur programme constitueraient une menace réelle ou simplement potentielle pour la sécurité nationale, la Cour a jugé que la conservation de telles données constitue une violation de l'article 8 et par voie de conséquence une violation de la liberté d'expression, article 10, et de la liberté d'association. Voilà une jurisprudence, je pense, à connaître en France. Alors plus récemment, le 4 décembre 2008, la Cour a statué à l'unanimité et en grande chambre, la chambre de référence, pour souligner l'importance qu'elle accorde à ces décisions. Il s'agissait là d'un refus du Royaume-Uni d'effacer des grands fichiers anglais de données biométriques, les fichiers d'empreintes digitales, fichiers de données génétiques, qui est le plus, vous savez, le plus performant, c'est le fichier anglais. Donc, refus d'effacer les données de deux personnes qui avaient été relaxées ou mises hors de cause dans des procédures judiciaires. La Cour va indiquer clairement, alors je vous ai mis toute la citation, que la protection offerte par l'article 8 serait affaiblie de manière inacceptable si l'usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n'importe quel prix. Donc je trouve aussi cette décision fondamentale. Alors, en lien avec ces décisions, je voudrais évoquer un moyen de résistance dont la tradition n'est pas française, mais qui vient des États-Unis, la désobéissance civile. En France, elle est plutôt conçue comme un mouvement de résistance de type politique, ce qu'elle est d'ailleurs. Mais la désobéissance civile, imaginée par Gustave-Henri Thoreau, est un mode de résistance non violent qui s'insère dans le système juridique. Il s'agit de refuser d'appliquer un texte que l'on considère comme contraire à un droit fondamental, en assumant les conséquences de ce refus, jusqu'à ce que un juge reconnaisse la validité juridique de cette position au regard des droits fondamentaux, donc protégés aux États-Unis par la Constitution et par la Cour suprême. Eh bien, actuellement, on a de plus en plus de procès qui ont lieu autour du refus par des personnes condamnées pour divers motifs, d'ailleurs généralement liées à des actions militantes, de se soumettre à des prélèvements d'empreintes génétiques, des squatteurs, des syndicalistes, des faucheurs d'OGM. Ce type de refus entre bien dans ce processus de désobéissance civile. Certains ont obtenu des relaxes par les juges. Alors, je prends le cas, par exemple, de jeunes gens qui avaient été déclarés coupables de vol aggravé parce qu'ils avaient remplacé des plaques qui s'appelaient Thiers, rue Thiers, à Grenoble, par d'autres intitulées rue de la Commune de Paris. Évidemment, Thiers, la Commune de Paris, ce n'est pas tout à fait la même chose. 2 ans plus tard, on leur demande de se soumettre à un prélèvement biologique. Ils refusent. Eh bien, la Cour d'appel de Grenoble a prononcé leur relaxe le 5 juillet 2007. En réalité, alors il y a d'autres jurisprudences, toutes ne relaxent pas, donc c'est vraiment un débat central. En fait, le débat ici, c'est la disproportion entre ce prélèvement obligatoire en fonction d'une condamnation liée effectivement à l'article prévu dans le code de procédure pénale, et ces infractions. Par exemple, taguer un mur, vous pouvez être condamné et vous devrez donner vos empreintes génétiques, résister à une expulsion. Alors c'est ça qui pose question, cette disproportion. Alors, évidemment, soyons rassurés, par les temps qui courent, pas de prélèvement génétique en cas de condamnation pour un délit financier. Ils ne sont pas prévus. Rappelons quand même que l'empreinte génétique est aujourd'hui considérée comme l'identifiant parfait. Et l'objectif des États est bien d'avoir un maximum de données génétiques. Alors, je voudrais terminer cet exposé, mais c'est bref, la matière est immense, en revenant sur le droit à la sûreté, c'est-à-dire la résistance à l'arbitraire. Le secteur des technologies de la sécurité est en évolution fulgurante et permanente. On vient de nous le démontrer juste à l'instant. Sans que l'on ait réfléchi à une protection générale qui pourrait être opposée, or, un ensemble de libertés sont menacées, droit à la liberté d'aller et venir, droit à la vie privée, surtout liberté individuelle. Mais les textes sont morcelés, peu connus, ponctuels, même si la Cour européenne concentre son contrôle en se fondant sur l'article 8, mais elle vérifie au surplus qu'il n'y a pas d'arbitraire, ce qui souligne l'importance que la Cour attache à cet élément. Alors, je crois qu'il faudrait redonner tout son sens au droit à la sûreté, celui de lutte contre l'arbitraire, et l'adapter au contexte actuel en se référant à l'approche, à la définition qu'en donne le professeur Jean Rivero. Et pour mieux comprendre l'importance de cette approche, il faut se rappeler, on vient de le dire, le recours aux technologies de sécurité est discret, peu décelable. C'est une insinuation dans la vie de tous les jours, d'une surveillance peu visible, mais de plus en plus généralisée. Finalement, c'est une grande question, puisqu'elle aboutit à la perte de la maîtrise de son identité, voire à la perte de la maîtrise même de son corps. Et je prends un exemple pour terminer, le scanner corporel, qui est destiné à remplacer la fouille corporelle intégrale, pour le moment, dans les aéroports. Pour ne pas être arbitraire au sens classique, une fouille corporelle physique ne peut être effectuée que dans des cas précis, sur des personnes déterminées et soupçonnées. Avec le scanner corporel, cette même intrusion intégrale dans le corps est effectuée sur nous tous, sans distinction, en fouillant le corps dans son intimité la plus totale. La violence n'est pas physique, mais en quoi cette violence est-elle moins grave parce qu'elle n'est pas physique au sens classique. Et n'est-on pas dans l'expression la plus aboutie de l'arbitraire, avec cet acte qui consiste à dénuder et fouiller intégralement le corps d'une personne, sans garantie, sans procédure, sans contrôle d'un juge qu'on ne pourrait pas faire pour une fouille corporelle intégrale. Cet arbitraire se dissimulant sous l'utilisation d'un instrument discret et silencieux. Insonores et pratiques, ils sont destinés à remplacer sans bruit dans les aéroports les portiques qui sonnent. Attention, ces portiques, nous les trouvons à l'entrée de nombreuses administrations, je crois bien en avoir vu, à l'entrée de Beaubourg. Eh bien, si on suit cette logique, de nombreuses intrusions liées à la vidéosurveillance se mettent en place également, scrutant nos iris, nos visages, nos attitudes, nous enregistrant dans des bases de données. Le Comité national d'éthique s'était inquiété dans un avis du 31 mai 2007, à propos de la biométrie, de ce que chacun accepte finalement d'être fiché, observé, repéré, tracé, sans souvent en avoir confiance. Certes, on pourrait dire qu'on illustre le discours de la servitude volontaire, mais pas uniquement, car nous sommes, je crois, pour le moment, sans grand moyen de défense du côté de nos libertés. Donc il est urgent de réagir et d'analyser ces intrusions pour ce qu'elles sont, pour beaucoup, j'ai pris le scanner mais pas seulement, des actes arbitraires analogues à ceux que l'on effectuait jadis quand on ne disposait que de moyens de contrainte physique. Il est urgent d'adapter ce qu'on appelait le droit à la sûreté à la situation d'aujourd'hui. Donc rappelons quand même la grande question qui reste celle-ci. Jusqu'où la sécurité autorise-t-elle des atteintes aux droits fondamentaux sans atteindre, voire détruire, l'essence même de l'État démocratique ?